Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 27. Deux Rois, chapitre 4, verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils, et sortit. Amen. Donc voici le récit d'un grand miracle, la résurrection du fils de la tsunamite. C'était effectivement un grand miracle de Dieu, qui s'est passé il y a bien longtemps. Mais Dieu est toujours le même, nous le savons, et il est capable d'accomplir des miracles semblables et comparables aujourd'hui encore. Et nous en avons eu bien des témoignages aussi, et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Mais si Dieu est toujours le même pour accomplir des miracles, les conditions à remplir pour qu'il fasse un miracle sont toujours aussi les mêmes. Ou j'irais plutôt, la condition est toujours la même. Il faut une foi véritable et vivante, une confiance totale dans la parole de Dieu. Voilà ce qu'il faut. Et c'est pour ça que nous allons examiner ce passage et essayer de voir comment mettre en œuvre une foi véritable et comment obtenir le miracle de Dieu. Lorsque nous regardons notre texte, nous y voyons trois personnages principaux actifs, sans compter l'enfant qui deviendra actif bien sûr seulement après le miracle. Vous avez la tsunamite, une femme de foi, et nous pourrions parler de sa foi, qui serait très instructive pour nous, certainement. Nous ne le ferons pas aujourd'hui, parce qu'il y a un autre exemple de foi qui est encore meilleur pour nous dans ce passage. Du moins, il y a encore plus de détails à ce sujet dans ce passage. Et c'est Élisée lui-même, et nous verrons quelle était la foi d'Élisée, et que personne ne nous dise que c'était un trop grand exemple pour nous, parce que la parole de Dieu nous dit que son propre maître, Élie, était un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire sujet aux mêmes faiblesses, aux mêmes infirmités que nous, et pourtant nous savons comment Dieu aussi a répondu à sa prière. Et puis notre troisième personnage, c'est Géasi, dans lequel nous voyons un homme qui manque de foi. Et c'est de lui que nous voulons parler en premier, dans notre premier chapitre, c'est l'incrédulité de Géasi avec ses signes et avec ses résultats. Déjà, vous pouvez remarquer que le prophète lui a donné toutes les indications nécessaires pour qu'il puisse, avec le secours de Dieu, accomplir ce miracle. C'est ce qu'on voit dans le verset 29, on l'a lu donc. Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main, pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Donc voilà. Mais malgré toutes les instructions donc, que le prophète lui a données, nous voyons que Géasi n'a pas eu de réponse. Déjà, vous pouvez remarquer qu'au départ, il a eu une initiative malheureuse dans le verset 27. C'est celle de repousser la tsunamite, parce qu'il ne comprend pas que cette tsunamite a de l'amertume dans le cœur, et il n'a pas réalisé la grande estime qu'Élisée avait pour elle. Une grande estime, parce qu'Élisée avait discerné en cette femme les aspirations, les désirs et les choses spirituelles. C'est une personne qui était réellement spirituelle. Et donc, il y avait de ce point de vue-là une affinité entre le prophète et cette tsunamite. Et Géasi, lui, il était à côté de ça. Quelque part étranger à ça, et c'est bien dommage pour lui. Et puis ensuite, remarquez qu'il n'obtient aucune réponse de la part de l'Éternel. Il admet lui-même, il confesse lui-même qu'il n'a pas vu de miracle, qu'il n'a pas entendu de voix pour lui expliquer, qu'il n'a pas entendu de signe d'attention, c'est dans le verset 31. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu ne fait pas attention à lui. Dieu ne lui explique rien, Dieu ne lui parle pas, parce que Dieu a déjà suffisamment parlé pour lui par le prophète. Donc déjà ça. Et puis, remarquez en plus qu'il n'a qu'une obéissance mécanique. Il fait mot à mot ce que le prophète lui a dit de faire, sans essayer de comprendre le pourquoi des choses, sans la moindre initiative spirituelle. Alors on lui a dit de se cindre les reins, il l'a fait. On lui a dit de prendre le bâton et il l'a pris. On lui a dit de ne saluer personne et il n'a salué personne. On lui a dit de ne pas répondre aux salutations et il n'a pas répondu. On lui a dit de poser le bâton sur le visage de l'enfant et il l'a fait. Pas plus, pas moins. Voilà, c'est ça. Pas de prière, pas de supplication, pas d'effort supplémentaire, pas de recherche complémentaire de la volonté de Dieu. Je n'ai pas rien contre les fonctionnaires, mais je dirais un vrai petit fonctionnaire, un vrai petit fonctionnaire religieux, si on peut parler comme ça, notre ami qui est assis, voilà. Au lieu de rester jusqu'à la victoire, au lieu de lutter jusqu'à ce que cette victoire qui était pourtant promise s'accomplisse, nous le voyons qu'il revient vers Élisée. Il revient avec des paroles de défaite, avec des paroles d'échec, des paroles négatives. Il dit « l'enfant ne s'est pas réveillé ». Sous-entendu, donc tu t'es trompé, Élisée, ou donc Dieu n'a pas répondu et Dieu ne répond pas toujours, voyez-vous ? Mais il ne parle pas de sa propre incrédulité, il ne parle pas de son manque de zèle, il ne parle pas de son manque de recherche de la volonté de Dieu et de la face du Seigneur. Et combien ils sont nombreux, vous savez, les gens qui sont comme Géasi, qui manquent de foi, qui sont incrédules et qui ne voient pas Dieu faire de miracles pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes se remettre en cause. Parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes se remettre en question radicalement comme ils devraient le faire. Et pourtant, toutes les indications nécessaires sont là pour eux dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'à les suivre, il n'y a qu'à obéir à cette parole, il n'y a qu'à la mettre en œuvre. Et si nous voulons être bénis, eh bien, il faut que nous ayons à cœur d'obéir à l'Écriture sainte où sont consignées toutes les instructions du Seigneur pour que nous puissions être sauvés et bénis. Amen. Ou alors, quand ils obéissent, trop souvent, ces gens-là, c'est pareil, c'est une obéissance mécanique. Quand on leur demande, mais pourquoi est-ce que tu crois ceci? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Eh bien, ils me répondent, on me l'a enseigné dans ma religion, voyez-vous, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, et puis, vous voyez, les gens, ils ne cherchent pas à creuser, ils ne cherchent pas le pourquoi des choses, ils n'ont pas d'initiative spirituelle, voyez-vous. Le problème, il est là. Et puis, quand Dieu n'agit pas comme ils le veulent ou comme ils le pensent, ils devraient agir, alors les voilà qui ont des paroles négatives plein la bouche. Ça ne marche pas, Dieu ne guérit pas, Dieu ne répond pas aux prières. Mais le problème, c'est que là encore, ils ne veulent pas parler de leur propre incrédulité, de leur propre manque de zèle, de leur propre manque de recherche de la volonté de Dieu, qui sont en fait les raisons principales qui empêchent Dieu de les bénir. Et quel va être le résultat de tout ça pour Géasi? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Eh bien, il va se retrouver dehors. Il va se retrouver devant la porte. Parce que vous avez vu dans le passage, c'est marqué que quand le prophète est arrivé, il est entré dans la maison et il a fermé la porte derrière lui. Et Géasi est resté dehors. Ça veut dire que Géasi ne verra pas ce que le prophète a fait. Géasi n'apprendra pas comment il faut faire. Géasi ne verra pas le miracle en train de se réaliser. Il verra le résultat du miracle après, oui, bien sûr. Le prophète l'appellera seulement après le miracle, comme on le voit au verset 36. Et je dirais que le résultat de l'incrédulité, c'est celui-là. On voit des résultats de miracles. On entend des témoignages de personnes qui ont été guéries, qui ont été secourues par Dieu. On peut même se dire, mais comment ça se fait qu'ils sont dans leur vie? Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai jamais vu Dieu en train d'agir comme ça. Alors ils disent que Dieu a fait des miracles pour eux, et puis que Dieu a fait ceci et que Dieu a fait cela, mais moi-même je suis en dehors de tout ça. Ben oui, ben pose-toi des questions pourquoi tu es en dehors de tout ça. Pose-toi des questions, hein, parce qu'il faut que tu en seras ainsi d'ailleurs, tu seras en dehors jusqu'au moment où tu passeras de l'incrédulité à la foi. Jusqu'au moment où tu passeras de l'incrédulité à la foi. Et ça, c'est notre deuxième grand point. Comment passer de l'incrédulité à la foi ? Donc, nous l'avons dit que Élisée a donné dans ce verset 29 toutes les instructions nécessaires à Géasi pour qu'il puisse mettre en action une foi qui produise le miracle. Vous avez sept instructions qui sont contenues là. Pardon. Déjà, la première chose, il lui a ordonné de se ceindre les reins, est-il marqué ? Nous le voyons. Hein ? Nous savons que la ceinture, comme autour des reins, c'est une image, ça représente la vérité. Hein ? Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit « Mettez à vos reins la vérité pour ceinture. » Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Et il faut que nous accordions à la parole de Dieu la place d'importance qui lui revient pour voir Dieu agir. Ensuite, une deuxième chose que nous voyons, le prophète lui a prêté son propre bâton. Nous savons que le bâton, pardon, dans ces temps anciens, c'était un signe d'autorité. Hein. On se rappelle que la verge d'Aaron, le bâton de Moïse, par exemple, ont été des moyens par lesquels des miracles se sont accomplis et ils ont servi à manifester l'autorité divine dont ces hommes de Dieu étaient investis. Et ainsi, le Seigneur donne aussi sa propre autorité. Pardon. À ceux qui ont la foi véritable, le Seigneur donne la puissance sur tout le mal. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur. Hein, c'est dans Marc chapitre 16. Et aujourd'hui, nous avons mieux que le bâton d'Élisée. Aujourd'hui, nous avons le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom qui est meilleur que tout autre. Ce nom qui est à nul autre semblable. Ce nom dans lequel tant de prodiges, tant de merveilles se sont accomplies et s'accomplissent encore aujourd'hui. Alléluia. Et puis une troisième instruction, c'est qu'il devait partir. Et il devait partir en courant, comme le montrent les reins saints. Parce que lorsqu'on se saignait les reins, ben à l'époque, ça veut dire on remontait les pans de sa tunique, on les attachait avec la ceinture, et ça servait soit à faire un travail avec beaucoup d'efforts, ou soit à courir. Hein. Donc là, c'était le cas. Ce n'était pas le moment d'hésiter, ce n'était pas le moment de tergiverser, de piétiner, il fallait y aller. Il n'y avait pas de temps à perdre pardon, pour accomplir l'œuvre de la foi. Et aujourd'hui, il en est exactement de même. Le Seigneur nous appelle à marcher dans ce chemin, dans cette voie, à nous mettre en route sans tarder. C'est sans tarder que certains d'entre nous encore doivent quitter la voie large qui mène à la perdition. Le chemin large qui mène à la perdition, et prendre sans tarder le chemin étroit qui mène à la vie. Et c'est ainsi qu'on verra pour ce que le Seigneur fera pour nous de grandes choses. Si tu continues à ne pas vouloir t'engager pour suivre le Seigneur, si tu continues à tergiverser et à attendre, et si tu crois que Dieu va faire des miracles pour toi parce que tu es en train d'attendre, eh bien tu te trompes. C'est seulement lorsque tu t'engageras sans tarder, c'est à ce moment-là que le Seigneur agira aussi sans tarder. Amen. Hein. Et puis, il ne devait pas s'arrêter en chemin pour saluer les gens. Alors, certains diront, mais ça, c'est impoli. Hein. Alors, je ne sais pas, vous connaissez peut-être, moi, je me suis découvert quand je suis arrivé en Afrique, au Tchad, le premier jour. Premier jour où je me suis réveillé au Tchad, j'ai découvert ce que c'était les salutations là-bas. Hein. J'étais là, et puis je regardais par la fenêtre, et puis j'ai vu arriver deux personnes, l'une en face de l'autre, dans la rue, comme ça. Elles ont commencé à se saluer de loin. Et puis ils ont commencé à demander, alors comment tu vas ? Je vais bien, et toi comment tu vas ? Et puis ils approchaient l'un de l'autre comme ça, et puis après ils ont fait tout le tour de la famille des deux côtés, vous voyez ? Et puis ils se sont croisés les deux, et puis ils étaient en train de s'éloigner l'un de l'autre, et ils étaient encore en train de se parler de la famille et de tout le monde. J'ai vu comment c'était les salutations. Bon, ben écoutez, c'est bien aussi, hein ? C'est une façon. Mais en tout cas, à l'époque, les salutations... Là, eux, ils se sont croisés, mais souvent, on ne se croise pas, on s'arrête, et puis on prend tout le temps, hein, on prend tout le temps pour ça. Et donc, mais le problème, c'est que dans la situation qui nous occupe, là, dans cette situation-là, eh bien, je regrette, mais le temps est trop précieux pour ça. Le temps est trop précieux, et si nous voulons voir que Dieu agisse aussi, il ne faut pas non plus que nous dispersions nos efforts dans toutes sortes de directions. Hein. Si nous faisons une chose, eh bien nous devons la faire bien. Et n'est-ce pas l'œuvre de Dieu qui est la plus importante ? N'est-ce pas cela la chose qui est vraiment nécessaire ? Et c'est pour ça qu'il faut s'en occuper, s'occuper de cela seulement jusqu'à ce qu'on ait atteint le but. Amen. Et puis l'autre chose qui suit la cinquième, c'est qu'il ne devait pas se laisser saluer par les gens. Il ne devait pas se laisser arrêter par eux, ça voulait dire. Hein. Les gens ne devaient pas le détourner de la grande œuvre dans laquelle il était engagé. Vous savez, il est étonnant de voir le nombre de situations, le nombre de choses, de gens qui voudraient nous détourner du Seigneur, de sa parole, de son œuvre et de ses miracles quand nous avons décidé de marcher dans ses voies. Alors là, vous savez, toutes sortes de raisons pour disperser notre attention. Et c'est pour ça que cette instruction de la part du prophète est tout aussi valable pour nous aujourd'hui. Et puis, il devait mettre son bâton sur le visage de l'enfant, c'est ça qui est marqué. Et ça, c'était le début d'une œuvre de foi, qui ne devait pas se laisser arrêter, et qui devait se poursuivre jusqu'au plein miracle. C'était un acte d'obéissance. Un acte d'obéissance physique qui était indispensable. Mais vous savez, Dieu nous demande plus qu'un acte. Il nous demande de l'acte. Mais il demande plus qu'un acte. Il nous demande, il faut que notre cœur suive aussi. Il faut que notre vie suive encore. Il faut qu'une œuvre complète de foi puisse s'accomplir. Amen. Et c'est ça qui est important. Et il devait aussi prendre d'autres initiatives spirituelles. Hein. La parole du prophète n'était pas fermée. La parole du prophète était restée ouverte. Il n'était pas dit que les choses devaient s'arrêter là, et il était même sous-entendu que cela devait continuer. Voyez-vous, il aurait au moins dû attendre jusqu'à ce que le prophète arrive, au lieu de retourner sur ses pas et de retourner vers lui. C'est au moins cela qu'il aurait dû faire. Hein. Et aujourd'hui, eh bien, on est aussi appelé. On est aussi appelé à faire un geste. Alors, ce ne sera pas de tendre un bâton, ce sera peut-être, je ne sais pas, de lever notre main ou de nous avancer tout à l'heure au moment de la prière pour les malades, pour les besoins. Hein. Mais après ça, il faut qu'on aille plus loin. La parole de Dieu, donc, reste ouverte. Il faut que nous prenions des initiatives spirituelles pour nous approcher du Seigneur et être ainsi pleinement bénis par lui. Amen. Et si je poursuis maintenant, voici Élisée. Voici Élisée, homme de foi. Hein, donc, notre troisième point. Et considérez la différence profonde qu'il y a entre Élisée et Géasi. Et les initiatives spirituelles qu'Élisée va prendre, au contraire de Géasi précédemment. Donc, Élisée, qu'est-ce qu'il fait ? Premièrement, nous l'avons dit, verset 33, il entre et il ferme la porte sur l'enfant et sur lui. Déjà, ça nous parle, ça. Et ça nous parle de quoi ? Eh bien, ça nous parle d'une séparation. Il faut qu'il y ait une séparation d'avec le monde extérieur, surtout avec l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, n'imaginez pas, ça peut être très contagieux, l'incrédulité, vous savez. Quand quelqu'un prononce des paroles d'incrédulité, il peut jeter un froid autour de lui. Hein. Il peut glacer des cœurs avec des paroles d'incrédulité. Donc il ferme la porte. Géasi, tu as été incrédule, tu resteras dehors. Tu ne me contamineras pas avec ton incrédulité. Remarquez que plus tard, Pierre fera la même chose. Avec Dorcas, hein, dans le livre des Actes des Apôtres, la résurrection de Dorcas, c'est pareil. Lui aussi ferme la porte. Parce que Jésus avait déjà fait ça aussi avec la fille de Jaïrus. Rappelez-vous, il y avait tous ceux qui étaient là, qui pleuraient, tous les pleureurs. Puis quand Jésus a dit « L'enfant n'est pas mort, mais elle dort », ils sont mis à se moquer de lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Il a pris avec lui les trois disciples et puis il a fermé la porte. Il a laissé les gens dehors hein, pour que le miracle puisse s'opérer avec la résurrection de la fille de Jaïrus. Et c'est pour ça qu'il faut que nous chassions et que nous séparions notre cœur toute incrédulité pour que Dieu agisse. Amen. Ensuite, deuxième chose, nous voyons qu'Élisée a prié l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu de tout son cœur, hein. Il sait que le secours vient de l'Éternel. Et ça aussi, c'est important. Il faut que là aussi, nous puissions réaliser la nécessité d'une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Une communion profonde avec lui. Et puis que nous luttions dans la prière. Peut-être y en a-t-il parmi nous aujourd'hui qui vont vraiment prier pour la première fois. Peut-être que jusqu'à présent, s'il priait, il murmurait comme ça, marmonnait quelques petites paroles sans trop savoir si ça pouvait. Non, mais là, ils vont peut-être enfin crier à Dieu. Ils vont peut-être enfin mettre toute leur âme et leur esprit dans cette prière, dans cette lutte, dans ce combat. Hein. Ils vont peut-être enfin le faire, et c'est comme ça qu'ils vont voir Dieu agir. Alléluia. Hein. Vous savez, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre toutes ses détresses. Encore faut-il qu'il crie à Dieu. Hein. Donc le grand point, il est là, c'est quelque chose d'important. Et puis il nous a dit au verset 34, « Élisée monte ». Il est monté, oui, parce que c'était la chambre haute. Sa chambre haute était sur la terrasse de la maison, au-dessus. Mais ça nous parle aussi. Il fallait qu'il monte. Il fallait qu'il s'élève dans la communion de Dieu. Il fallait, effectivement, qu'il s'approche de Dieu. De toute façon, il avait cette habitude-là. Rappelez-vous, au début de notre texte, il était dit que lorsque la tsunamite est arrivée, bien, Élisée était sur la montagne. Hein. Et sur la montagne là, parce que c'était sur la montagne qu'il pouvait prier le Seigneur, c'était là qu'il avait son refuge auprès de Dieu, c'était là qu'il s'approfondissait dans le Seigneur, et cela aussi, il est important que nous puissions aussi élever nos âmes au-dessus des contingences de la terre, élever nos âmes au-dessus des préoccupations de ce monde, pour pouvoir vraiment, là aussi, lutter dans la foi. Et puis remarquez ce qui se passe, tout différent de Géasi. Géasi, il est là, il pose son bâton. Vous savez, il a bien fait attention, hein, parce qu'il savait qu'un mort, ça rend un juif cérémoniellement impur. Hein. Donc il n'a surtout pas touché le gamin. Hein. Oh, il a posé le bâton, voilà, comme ça, il a bien fait attention. Puis après, quand il a récupéré le bâton, il a bien fait attention de ne pas toucher la partie du bâton qui avait touché le corps du gamin. Hein. Donc il a fait comme ça. Mais là, Élisée fait l'inverse. Vous avez vu ce qu'il fait ? Élisée se couche sur l'enfant, verset 34. Et voyez de quelle façon ? Sa bouche sur sa bouche, comme pour lui communiquer la parole de Dieu. Ses mains sur ses mains, comme pour donner à ses mains la force d'agir. Ses yeux sur ses yeux, comme pour lui communiquer la vision divine. Et il s'étend sur lui, il le couvre complètement, parce que l'enfant était petit. Hein. Voyez cette différence. Oui, c'est vrai, nous voyons qu'il y avait effectivement, le prophète pouvait être effectivement rendu cérémoniellement impur, mais il l'a fait, et le miracle a eu lieu. Hein. C'est comme Jésus, lorsqu'il a touché, le lépreux, hein, lui aussi il se rendait cérémoniellement impur, sauf qu'il l'a guéri de sa lèpre. Hein. Donc c'est cela. Et la même façon, c'est exactement ce que Jésus a fait aussi pour nous, parce que nous aussi, nous étions morts dans nos péchés. Hein. Et Jésus, qui était sans péché, eh bien Jésus s'est couché sur nous. Donc, il s'est rendu impur, lui sans péché, pour que nous puissions avoir la vie véritable. Amen. Et puis, il est marqué encore, remarquez bien, au verset 34, « La chair de l'enfant se réchauffa ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est resté couché dessus pendant un moment. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il s'est resté couché longtemps. Ça veut dire qu'il y a eu un combat. Ça veut dire qu'il a fallu persévérer jusqu'à la victoire dans la foi. C'est vrai. Hein. Si vous voulez de grandes choses, eh bien, soyez prêts à entreprendre aussi de grandes choses pour le Seigneur. Hein. Il faut savoir aussi ce qu'on veut, hein, de la même façon. Et c'est vrai que la victoire complète n'est pas toujours immédiate. Vous avez ce combat de la foi et dans lequel il faut persévérer fidèlement jusqu'au plein accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Et il est même dit après, verset 35, qu'il s'est éloigné et qu'il est allé ça et là dans la maison. Pourquoi faire ? Bien certainement pour prier, pour crier à Dieu, d'une autre façon encore, peut-être pour voir s'il n'y avait pas dans cette maison quelque chose qui pouvait être un empêchement à une complète bénédiction. Et vous pouvez remarquer que le prophète, eh bien, il avait toute liberté de circuler dans toute la maison. Hein, donc, il n'y avait aucune restriction qui lui était faite. Est-ce que Jésus peut aller librement dans toutes les pièces de ta maison ? Est-ce que Jésus peut entrer librement dans tous les domaines de ton existence ? Ou bien est-ce qu'il y a l'un ou l'autre domaine, l'une ou l'autre pièce dont tu vas lui dire « Non, Jésus, tu vaut mieux pas que tu rentres là, parce que non, là, il y a quelque chose qui ne convient pas, quelque chose qui ne va pas. » Ah, c'est une question, cela. Donc, là aussi, c'est important que les obstacles puissent être enlevés pour que la guérison ou pour que l'exaucement puisse se réaliser. Et puis, nous voyons verset 35, il est marqué, « Il remonta et s'étendit à nouveau sur l'enfant. » Donc, et là encore, ayant vu probablement qu'il n'y avait pas d'obstacle, renouvelé, encouragé dans la foi, il a décidé, là encore, de persévérer dans la promesse de Dieu et de persévérer jusqu'à la victoire. Et donc, il ne nous est pas dit combien de temps il est resté là, mais c'est jusqu'à la réalisation de la promesse. Et de même, quand tout obstacle est enlevé, il est bon de tenir ferme et de tenir bon jusqu'à la victoire. Amen. Et le résultat, la conclusion du récit, nous voyons du verset 35 au verset 37, « L'enfant éternua sept fois, nous a-t-il dit. Et puis il ouvrit les yeux. » Nous savons que les éternuements, c'est quelque chose qui dégage le cerveau, et donc dans ce cas, ça peut bien se comprendre, puisque c'était suite à un mal dans son cerveau, mal à sa tête, que l'enfant était décédé. Bon, c'est dit dans le verset 19. Il nous dit que l'enfant éternua sept fois. Et ça nous montre, le nombre 7, vous savez, dans l'écriture, c'est très souvent une image de perfection. Ça nous montre la manière parfaite dont il a été guéri. À chaque éternuement, la guérison devenait en quelque sorte plus complète, le cerveau était plus dégagé. Alors je ne sais pas, peut-être un éternuement, c'était peut-être le centre de l'équilibre, un autre peut-être celui de la mémoire, un autre celui de la vision, un autre celui de la parole, puis un autre, ben, c'est peut-être l'hémisphère droit du cerveau, un autre l'hémisphère gauche, et puis le septième enfin, tout est complètement rétabli, toutes les connexions si délicates qu'il y a dans le cerveau, eh bien, se font de façon parfaite, il est pleinement guéri pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et ça nous parle, parce que ça nous parle aussi, oui, parce que nous aussi, eh bien, vous savez, il n'y a rien de plus délicat à guérir qu'un cerveau, hein. Eh bien, il y a aussi certainement des besoins, des choses délicates qui doivent être rétablies dans des vies, dans des existences. Pour les uns, ben, c'est quelque chose qui va être très visible peut-être, ça va être une maladie, un problème évident. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être une guérison, une délivrance qui est plus intérieure. Ça peut être des blessures cachées, des choses mauvaises, cachées, donc qui ne peuvent être dites à personne, et dont peut-être même certaines dont on ne se rend même pas compte. Hein. Mais si on se tourne vers le Seigneur, et si on se confie vers lui, eh bien, il fera son œuvre de guérison en vous parfaitement, et pour sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alors la question ce soir, c'est qui est-ce qui veut venir au Seigneur, comme la tsunami est venue à Élisée, avec ténacité et avec constance. Qui est-ce qui veut être débarrassé de cette incrédulité défaitiste, négativiste, vous savez, qui proclame toujours des choses négatives, qui ne lutte pas, qui n'a pas d'initiative spirituelle, qui ne cherche pas vraiment la volonté de Dieu, hein ? Qui est-ce qui veut ainsi apprendre à lutter dans la foi comme Élisée l'a fait ? On l'a vu avec persévérance, avec mise en pratique de la parole, avec recherche approfondie de la volonté de Dieu pour la situation présente, pour le besoin présent, avec engagement dans le combat spirituel. Et le Seigneur ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement, subitement est-il de si soudainement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. Amen, amen. Te remercions Seigneur, nous te bénissons, parce que nous voyons combien ta parole est là aussi pour nous conduire, pour nous instruire Seigneur, et nous instruire dans des choses importantes, dans des choses salutaires pour notre vie Seigneur, dans des choses qui sont vraiment cruciales, hein, des questions de vie ou de mort, des questions de guérison, des questions de délivrance, des questions de foi, des questions de conduite dans notre vie. Alléluia Jésus. Des questions de choix, de bons choix qui sont à faire. C'est pour cela que ta parole est là, Seigneur. Ce n'est pas pour des choses triviales, pas pour des choses de seconde importance, mais c'est pour des choses primordiales dans notre vie. Merci notre Dieu. Béni soit ton nom.